Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur l'aventure des récits et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une personne avec laquelle je partage beaucoup de centres d'intérêt et avec laquelle je suis sûre que vous allez vous aussi connecter. Florence Hugui est praticienne en récits de vie, c'est une femme de projet, de multi-projets et vous allez l'entendre, son parcours est particulièrement intéressant et inspirant lorsque l'on s'intéresse aux récits. Bonjour Florence, comment ça va?
Ça va très bien, merci beaucoup, et toi?
Eh bien ça va très bien, le ciel est bleu pour l'instant, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse également.
Eh bien oui, le ciel est bleu également et ça fait du bien parce que l'actualité n'est pas très bleue, donc ça fait du bien d'avoir un ciel qui compense.
Ben Florence disait que nous avions un certain nombre de points en commun, de centres d'intérêt communs, mais il y en a un que tu ne connais pas encore, c'est que... ouais. Comme toi, j'ai une passion pour le thé.
Ah!
Alors, le bon thé, hein? Pas le thé en sachet.
Ah ben, évidemment.
Le thé qui est...
voilà. En connaisseuse, on parle de bon thé, on parle évidemment pas de thé en sachet.
Donc, celui qui demande un peu de temps pour être préparé, pour trouver l'eau à la bonne température, pour pas l'altérer. Alors, vous me direz d'accord, mais quel rapport avec les récits? Aucun. Si ce n'est que le thé, à mon avis, comme la lecture et l'écriture, appartient à une forme de temps suspendu, celui de la patience, de la concentration, du temps retrouvé aussi peut-être, et peut-être même à un temps que l'on cherche à reconstituer dans les récits de vie. Et voilà, moi j'ai invité Florence parce qu'elle va nous parler de récits de vie, de sa pratique. Et d'abord, je pense que tout le monde ici n'a pas forcément connaissance de ce qu'est l'activité d'une praticienne de récits de vie. Alors, Florence, qu'est-ce que ça signifie d'abord être praticienne en récits de vie?
En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis à propos du thé, parce que le thé, en réalité, est un ingrédient important du récit de vie. Parce que pour plusieurs projets que j'ai pu mener avec des personnes, le thé devenait notre rituel. Et que ça fait partie des éléments qui permettent de se mettre dans un cadre particulier et de se mettre comme en état de se raconter. Et donc, le thé n'est pas du tout si anodin que ça, effectivement. Dieu sait que je suis d'accord avec tes mots là-dessus. Mais il peut vraiment jouer un rôle qui va beaucoup plus loin. Maintenant, ta question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une praticienne en récit de vie? Comment on fait ce travail? En fait, ça consiste à aller recueillir la vie de personnes qui souhaitent se raconter pour toutes sortes de raisons, qui ont envie de laisser une trace, qui ont envie de laisser un message à leurs descendants ou leurs descendantes, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, par exemple. Mais ça peut aussi être des personnes qui souhaitent déposer une partie de leur histoire qui a été particulièrement forte, lourde, difficile ou au contraire extrêmement puissante pour eux, pour pouvoir continuer un peu plus léger leur chemin de vie. Donc il y a toutes sortes de raisons qui peuvent mener à avoir envie de déposer son histoire. Et mon travail, c'est de recueillir cette histoire et de lui donner une forme. De lui donner la forme d'un récit, d'un livre, en fait, souvent, et parfois d'autres formes qui peuvent naître en fonction des envies, en fonction des discussions, en fonction des besoins aussi de la personne avec qui je peux travailler.
Si tu veux bien, on va retracer peut-être ton parcours jusqu'à cette activité. D'abord, oui, quelle est l'origine, le moment où toi vraiment tu t'es intéressée à ce domaine?
En fait, pendant longtemps, je m'intéressais aux vies des gens. Moi, j'étais journaliste pendant longtemps. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette profession, c'était d'aller en coulisses, d'aller parler avec les gens qui me racontent des choses qu'ils ne raconteraient pas de manière officielle, ou essayer d'avoir la chance aussi de pouvoir entrer dans ces fameuses coulisses, d'aller voir un peu derrière le décor ce qui se passe, et finalement recueillir des récits et des histoires de vie qui faisait sens et qui donnait de la puissance, je crois, à des problématiques politiques ou des problématiques sociales qui étaient rencontrées par les personnes qui lisaient le journal dans lequel je travaillais ou qui écoutaient les émissions de télévision auxquelles j'ai participé. Et en fait, ça a été mon premier intérêt, il vient de là. Et puis quand j'ai découvert que ça pouvait être une profession... en fait, je m'en doutais pas du tout parce que j'avais pas pensé que mon intérêt pour les récits, que finalement j'avais toujours écouté, que j'étais toujours allée à la rencontre de gens qui me racontaient leurs histoires, sans savoir que ça pouvait être un métier en fait. Et en découvrant que ça pouvait être un métier, je travaillais à la télévision à ce moment-là et je suis allée voir la personne qui avait lancé une formation au récit de vie pour l'interviewer. pour savoir un peu comment ça se passait, en fait. C'était quoi ce métier? Comment ça se fait que j'étais pas au courant de cette chose incroyable? Je n'avais jamais eu connaissance. Et puis, je me suis inscrite à cette formation pour pouvoir devenir moi-même praticienne en récit de vie. C'est comme ça que je me suis donné cette identité professionnelle, si tu veux, autour du récit de vie, même si je la pratiquais déjà en tant que journaliste. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout journaliste d'être praticienne en récit de vie. Parce que la posture n'est pas du tout la même. La posture, elle est beaucoup plus proche de la personne qui se raconte. Je ne suis pas là en tant que journaliste pour recueillir un témoignage qui va être utile à un sujet ou qui va pouvoir corroborer une thèse que j'ai pu définir. Mais je vais aller entrer dans le même bateau que la personne. On parle souvent de bateau. En disant qu'on est toutes les deux intégrées et embarquées dans le même bateau et qu'on va devoir cheminer ensemble. Donc, il y a quelque chose qui se tisse dans le récit que la personne raconte, dans comment moi je l'écoute et quelles questions je vais lui poser, mais aussi dans le récit commun qui va exister entre nous deux, puisque ça aussi, ça va prendre une place particulière.
Oui.
Donc, on est embarqué. On n'est pas du tout, je n'ai pas du tout une posture extérieure. Au contraire, je suis avec la personne. Et si tu fais un récit avec une personne que j'ai eue moi-même en recueil de récits, eh bien, ça ne donnera probablement pas la même histoire, pas la même construction, pas la même configuration, parce que ta sensibilité n'est pas la mienne et que c'est ça qui est très bien. Ça donne à chaque fois un objet particulier. Ouais. C'est pour ça que c'est important de bien choisir la personne avec qui on veut faire ce travail. Sûr. De récit de vie.
Par rapport à ton métier de journaliste, là, tu passes à un métier d'accompagnement de la personne avec une connaissance beaucoup plus approfondie de tout son être. Et tu deviens auteur aussi, quelque part, co-auteur.
Bien sûr. Alors, on est co-auteur. Maintenant, un métier d'accompagnement, oui, parce qu'il y a une forme de ça, mais c'est aussi important de ne pas être dans l'accompagnement au sens du coaching ou de la thérapie qu'on pourrait proposer. Hein, parce que moi, j'ai des activités de coach par ailleurs. J'ai eu des activités de journaliste pendant longtemps et je dirais que le récit de vie, pour moi, la pratique du récit de vie, ça se situe entre ces deux domaines-là. C'est-à-dire que je ne vais pas aller écouter une personne pour qu'elle puisse progresser dans son histoire. Je l'écoute simplement pour qu'elle puisse déposer ce qu'elle a besoin de déposer. Et donc, pour moi, il est très important que je sois au clair sur la posture que j'occupe et la place que je prends dans son récit, puisque c'est à elle de définir ce qu'elle a envie de partager, comment elle a envie de le partager, et qu'est-ce qui fait sens pour elle.
Mais c'est important de préciser, parce qu'il existe aussi ce que l'on appelle les pratiques narratives, qui sont très différentes. Hein.
Ouais, les pratiques narratives, moi je suis formée en pratiques narratives, et je l'utilise dans le cadre de mes accompagnements, effectivement, mes accompagnements plutôt type coaching, mais j'utilise aussi les pratiques narratives en récit de vie, parce qu'il y a un aspect dans les pratiques narratives qui est tout à fait intéressant en récit de vie, c'est ce qu'on appelle la renarration. C'est-à-dire que plutôt que de parler de son histoire, j'ai vécu tel voyage, et puis je suis allée dans tel pays, et puis j'ai vécu telles aventures à cet endroit, ça ce serait la partie récit de vie. Puis la partie renarration, c'est qu'est-ce que ce voyage m'a apporté, comment il m'a enrichi, quel regard nouveau j'ai eu sur ma vie, sur la société, sur les gens qui m'accompagnaient ou sur Dieu de c'est quoi d'autre. Donc on va chercher quand même cette dimension de renarration, mais sans avoir besoin de demander à la personne ou d'avoir comme objectif de la faire avancer avec cette idée de renarration. C'est simplement l'idée d'enrichir le récit et de lui donner plus d'épaisseur. Ça, c'est tout à fait narratif, mais sans que ce soit une volonté de la faire progresser, si tu veux, dans son existence.
On peut dire que la démarche n'est pas thérapeutique, contrairement à un praticien narratif.
Non, on n'est pas dans la thérapie, jamais dans le récit de vie, mais on peut utiliser des outils qui viennent des pratiques narratives au service du récit de vie.
Quels sont les besoins principaux des gens que tu peux suivre?
C'est des personnes qui ont vécu un moment très fort dans leur existence, qui ont besoin de déposer ce moment, qui ont besoin de le raconter pour pouvoir s'en aller un peu plus léger dans leur histoire. Ce n'est pas forcément des histoires lourdes, ça peut être des histoires simplement fortes ou puissantes qui ont joué un très grand rôle dans leur parcours, qu'ils ont besoin de déposer. Mais après, peut y avoir d'autres choses. Par exemple, il y a quelque chose encore qui se met en place avec ça, c'est qu'il peut y avoir des histoires privées où on a envie simplement de déposer son histoire, de faire écrire un livre ou d'avoir un objet, livre ou un autre objet qui va être édité à 4 exemplaires. Nous, on aime bien dire qu'on fait des best-sellers à 4 exemplaires. Et puis parfois, c'est des projets qui deviennent publics. avec des publications, avec des maisons d'édition qui s'intéressent à ces travaux, ou alors des mises en scène. Il y a eu, moi et mes collègues, nous avons pu participer à des projets de ce genre où on a fait du recueil de récits au service de mise en scène qui allait être présenté à un public, des expositions et toutes sortes d'autres objets médiatiques, si tu veux, qui peuvent exister avec à la base des personnes qui choisissent de se raconter parce que ça a du sens pour elles.
Tu disais « nous, mes collègues oui. ». Par rapport à ton aventure entrepreneuriale aussi, comment ça s'est passé? Tu as créé une entreprise?
Alors oui, moi je suis indépendante depuis 10 ans. J'ai une entreprise qui s'appelle Filigrane, dans laquelle je fais de la formation pour les adultes, de l'accompagnement aussi pour les adultes, individuels et quelquefois avec des équipes. Et puis j'ai un pôle écriture et créativité. D'accord. Dans lequel il y a le développement des récits de vie. Donc ça, c'est mon entreprise à moi, c'est Filigrane. Et puis parallèlement à ça, on a créé avec 3 autres collègues une association qui s'appelle l'association Collectif Dire.
Oui.
Et cette association, elle est vraiment vouée et destinée à travailler sur le récit de vie. On a créé cette association parce qu'on était toutes les 4 formées au récit de vie, mais que nous avions besoin d'un cadre et nous avions besoin surtout d'intervision pour savoir comment créer cette nouvelle profession qui émergeait. On a maintenant à peu près 10 ans d'association aussi. Et donc, il fallait qu'on se mette d'accord sur le cadre dans lequel on allait fonctionner, sur l'éthique qu'on allait proposer, sur le cadre déontologique, sur tous ces aspects-là. Et donc, dans un premier temps, on a beaucoup fonctionné en intervision avec le collectif DIR. On se voit encore aujourd'hui une fois par mois pour échanger sur nos pratiques, sur les différents projets qu'on mène, etc.
Oui.
Et puis, parallèlement à ça, on avait envie aussi de faire connaître cette profession qui était peu connue. Et donc, nous avons eu toutes sortes de projets publics qu'on a pu mener pour présenter la profession, inviter les gens à venir échanger des petits bouts de leur récit. Et puis, petit à petit, les choses se mettent en place avec d'autres projets qui viennent se greffer sur le nôtre, comme par exemple en Suisse, un projet qui s'appelle les Cafés Récits, qui est un projet qui est soutenu par une institution publique dont je ne connais pas exactement le cadre juridique. Et qui en fait promeut le café récit en disant que le fait de regrouper des personnes qui viennent raconter un bout de leur vie, qui viennent échanger pendant 2 heures avec d'autres qui racontent aussi des bouts de leur histoire, c'est un projet qui a un enjeu absolument important au niveau de la santé publique. Mmh. Et ça, c'est en train d'être reconnu. Donc on voit qu'on s'inscrit dans une démarche qui finalement fait sens de manière beaucoup plus large. Et puis avec le collectif DIR, je continue pour te dire ce qu'on a créé avec le collectif, c'est qu'après plusieurs années d'activité, chacune de notre côté en indépendante, on a décidé de créer une formation au récit de vie, une formation professionnalisante au récit de vie qui existe depuis 2021. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'elle existe. Nous avons formé 4 équipes différentes, 4 x 16 personnes qui ont suivi cette formation jusqu'à aujourd'hui. Et puis cette année, nous lançons une version en ligne parce que les demandes viennent aussi de l'étranger, qu'on a des demandes de gens qui viennent d'un peu plus loin,
ouais,
et qui ont envie de se former à cette pratique-là pour pouvoir ensuite la proposer à des personnes qui sont autour d'elles dans différentes...
Constellation, du coup, créer une galaxie à partir de tout ça. Concrètement, comment ça se passe lorsque, je ne sais pas si j'ai quelques exemples à nous donner, d'un accompagnement justement d'une personne, je dirais du début, d'abord comment elle peut prendre contact avec toi, et puis ensuite, est-ce qu'il y a un schéma que tu suis toujours, ou est-ce que vraiment il y a une adaptation aux besoins de la personne et au type de récit qu'elle veut construire? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe?
En fait, c'est comme chaque contact humain, c'est chaque fois différent. Mais il y a quand même un cadre auquel on se conforme un peu. Donc d'abord, il est très important que la demande vienne de la personne. Parce que c'est pas moi qui vais aller solliciter quelqu'un en lui disant « Ah, mais vous avez une vie géniale, alors je pense que c'est bien. » Je te dis ça, et en même temps, le premier travail de récit de vie que j'ai fait, je l'ai fait sous cette forme-là, c'était une personnalité publique, j'avais envie de la rencontrer, je l'avais vue sur scène, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait D'accord. vraiment des choses intéressantes et importantes à dire. Et là, je l'ai sollicité presque en tant que journaliste dans un premier temps. Et puis, dans le cours de la conversation de mon interview pour un média, on a parlé d'un éventuel travail au long cours, beaucoup plus important pour en créer un récit publié, et ça s'est produit. Mais la posture était un peu particulière parce que c'était une demande qui venait un peu de moi, qui a aussi été acceptée par elle à un moment donné, et puis on s'est mis au travail ensemble. Mais d'habitude, les demandes, elles viennent vraiment des personnes. Et je le dis parce que souvent, on a des des enfants ou des petits-enfants justement qui s'approchent de nous en nous disant ben, « Ah, mais mon grand-père, ma grand-mère a plein de trucs à raconter, ça serait super qu'on fasse ça, ah, etc. Oui. » Oui, bien entendu, mais d'abord, la personne doit être d'accord et ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut avoir l'idée que son grand-père ou sa grand-mère a envie de raconter, mais ce n'est pas toujours si clair pour la personne qui est concernée. Donc, c'est important que l'adhésion, elle vienne vraiment de cette personne-là. Donc, on est approché par des gens qui ont envie de se raconter, qui ont une raison particulière de le faire. Et puis, sur la base de ça, on met en place un contrat et on définit le nombre de séances qu'on va pouvoir proposer. On fait des séances qui ne durent pas plus longtemps qu'une heure parce que c'est très fatigant de se raconter. Ça épuise. Et donc, c'est important de oui, de respecter ce rythme, en fait. Et puis aussi parce que se raconter pendant une heure, ça fait ressurgir beaucoup de souvenirs. Et que ces souvenirs, ben, ils vont peut-être ressurgir la nuit suivante ou le jour après. Et donc, on laisse le temps aussi de pouvoir faire émerger ces histoires-là. Donc, un récit, ça part sur 5 à 8 rencontres. Mais tout le monde ne travaille pas du tout de la même façon. Donc, ça dépend vraiment de différentes écoles. Mais la nôtre, elle est celle-là. Et puis... Ensuite, sur la base de ce matériel qu'on a enregistré, on va transcrire et on va ensuite écrire et remettre à la personne un manuscrit terminé.
D'accord.
Sur la base de ce qu'elle a évidemment raconté. Il n'est jamais question de faire l'anti-histoire de quelqu'un ou le scoop X ou Y ou Dieu sait quoi. Bien évidemment que la personne, elle est toujours en accord, toujours. Elle doit donner son accord à tout ce qui va être écrit. Parce que tu le sais comme moi, quand on parle avec quelqu'un, il y a toujours un petit moment où il va te confier un secret. Ou quelque chose qu'il ne faudrait pas dire. Et donc, ces choses qu'il ne faudrait pas dire, les rencontres sont confidentielles et on le garantit. Mais parfois, on écrit des choses de ce genre-là en demandant l'accord de la personne pour voir si on peut les laisser ou pas. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que... Enfin, ce que j'ai pu, moi, en tout cas, constater, mais mes collègues pourraient te raconter la même chose, c'est que quand une personne a dit un secret à quelqu'un, quand elle a pu le déposer dans le récit, il n'a plus du tout la même force au moment où elle le voit écrit. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe avec ça.
Oui, tu nous parlais tout à l'heure de best-seller à 4 exemplaires. Parfois, ça va un peu plus loin.
Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, oui. Alors, parfois, les récits sont édités parce qu'il y a il y a un intérêt public qui peut être lié à la personne qu'on est en train avec laquelle on a travaillé. Moi, ça a été le cas pour la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est une comédienne et artiste et chanteuse francophone qui habite en Suisse, qui est une Suissesse. Donc, j'ai publié un livre avec elle. Et puis, ça a donné lieu à d'autres demandes. Par exemple, des récits. Moi, j'ai travaillé sur des projets de récits de migration, plus ou moins anonymes, pas toujours, qui ont donné naissance à des expositions. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des récits de travailleurs et travailleuses du sexe avec une association qui les accompagne. Et ça a permis de donner naissance à une mise en scène qui a été présentée à un public avec ces récits qui ont fait le fondement, si tu veux, du texte qui a été présenté publiquement. Donc, ça a permis de diffuser des témoignages et des récits de manière beaucoup plus large que simplement sur des best-sellers à 4 exemplaires. Mais la réalité de notre métier, c'est quand même de travailler sur des récits privés. Et ces récits privés, après, la personne choisit combien d'exemplaires elle a envie de les diffuser. Et ça peut rester effectivement très confidentiel, suivant encore une fois les raisons pour lesquelles on se raconte.
Est-ce qu'il y a un projet, enfin, je suppose qu'il y en a un, mais tu dois raconter un qui t'a particulièrement touché, bouleversé ou enfin, provoqué une émotion vive ou pour une raison ou pour une autre, ou plusieurs peut-être. Je suppose que c'est difficile de choisir, mais...
Je pense que tous les projets auxquels j'ai participé, pour lesquels j'ai été sollicitée, ont eu un impact dans ma vie. Et il y a eu vraiment des très très belles rencontres avec les personnes qui choisissent de se raconter, parce qu'il y a des moments d'intimité, des moments de présence comme ça, très très particulières, très singulières à soi et aux autres qui sont vraiment importantes, puis des moments d'émotion importants, etc. Beaucoup de choses qui se passent avec ces récits. J'ai envie de te parler d'une femme qui s'appelle Lucie, et je prononce son prénom volontairement sans en dire plus, qui est arrivée chez moi en me disant « Alors moi, je viens de loin, mais je suis d'accord de faire le trajet pour venir me raconter parce qu'une amie m'a dit que je devais venir faire mon récit chez vous. » Et moi, je ne connaissais pas son amie, Donc, je ne savais pas très bien comment elle était arrivée chez moi. Et d'habitude, quand les personnes arrivent, je les installe, on discute des modalités, de comment on va travailler, de tout ça. Et là, cette personne, elle est arrivée, très belle femme, vraiment très, très touchante à tous les points de vue. Elle est arrivée et elle s'est installée et elle s'est mise à raconter. Elle n'avait pas besoin de savoir si elle pouvait me faire confiance ou non. Elle était là pour dire. Et elle a fait les trajets, donc depuis chez elle, c'était à peu près à 1h30 de route, je pense, de là où je suis installée. Et elle venait, semaine après semaine, déposer son histoire, déposer ce fardeau qu'elle appelait, en fait. Un jour, elle m'a dit, vous savez, Florence, que je viens déposer ma petite casserole d'Anatole. Et la petite casserole d'Anatole, c'est un récit pour les enfants qui raconte l'histoire d'une casserole, etc. Et en fait, elle venait déposer cette petite casserole d'Anatole qui était comme déposer son fardeau, déposer un petit bout de son fardeau à chaque fois. Et donc, c'est devenu un personnage du récit, cette petite casserole d'Anatole, puisque à chaque moment, je lui disais, mais vous savez, je la garde, elle est là, vous voyez, elle est dans ce coin, etc. Et on avait imaginé tout un décorum autour de cette petite casserole qui, en fait, représentait pour elle l'allègement. Et cet allègement qu'elle venait, elle venait déposer chez moi, elle repartait plus légère et elle revenait la fois suivante pour déposer la suite. Et donc, il y a eu peut-être un travail d'ordre thérapeutique pour elle. Puis en même temps, c'est pas du tout ça que je l'ai emmenée à faire. Elle est venue me raconter une histoire de vie. Donc, j'ai accueilli ce qu'elle me racontait, qui était un véritable roman, qui était extraordinaire, qui était d'une richesse impressionnante, qui racontait des pages d'histoire suisse très importantes et en même temps une histoire d'amour folle et puis plein d'autres choses vraiment extraordinaires. Et voilà, j'ai accueilli son récit tel quel elle voulait me le donner. Et ça a été, je pense, pour elle et pour moi, un moment extrêmement puissant de pouvoir vivre cette expérience-là ensemble. Ça a donné lieu à un récit qu'elle a pu partager avec ses enfants, je le sais, avec quelques autres personnes. Mais il y avait pas mal de secrets dans ce récit. Donc, elle a certainement choisi, et je crois savoir qu'elle a choisi de manière très soigneuse les personnes à qui elle allait le partager ou non.
D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, au moment où ça s'est terminé, justement, où ça a été créé ?
Ben, en fait, je crois que ça permet aussi de mesurer combien c'est important de faire ce travail, combien il a du sens et combien ça apportait des choses essentielles, en l'occurrence à cette personne, mais aux autres personnes avec lesquelles j'ai pu travailler et combien ça répond à un vrai besoin de pouvoir comme se valider dans son histoire et se donner peut-être une place un peu différente en devenant la vraie héroïne, le vrai héros de son propre récit.
Oui.
Sans, c'est pas une histoire de narcissisme, c'est une histoire de place.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment très important, je crois. Alors, comment on sent la fin d'un récit ? Ben, moi, je suis la professionnelle de l'écriture. Donc, je suis censée être capable de dire, voilà, je pense qu'on arrive à peu près au bout du récit. Et je me souviens d'un autre exemple avec une autre personne dont j'ai recueilli l'histoire qui, à la fin du récit, avait dit, oui, non, mais c'est bon, là, je pense qu'on s'est tout dit, etc. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle ne l'avait jamais fait avant, qu'elle a commencé de m'appeler. Me dit, oui, mais j'ai encore pensé à un truc. Ah, puis j'aimerais encore raconter ça. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait terminer. Puis en même temps, il fallait un peu de temps pour se faire à l'idée que oui, on allait arriver au bout et que oui, on allait arrêter de se rencontrer pour ces moments tellement particuliers de recueil de récits.
Tu nous parles de limites en quelque sorte et même émotionnellement, ouais. Tu as prononcé plusieurs fois un mot qui me paraît très très intéressant dans ton travail, c'est le mot accueillir. Mm-hmm. Et je me demande comment on fait pour accueillir sans se laisser envahir.
Ouais.
Parce que tu disais aussi au début que forcément ça fait écho avec son histoire personnelle, qu'il y a des choses qui se rencontrent. Je suppose que tu as mis en place certaines compétences aussi pour, j'allais dire presque pour te protéger.
Oui, je pense que c'est pour ça qu'on fait des intervisions régulièrement. C'est pour ça qu'on a décidé de se réunir avec le collectif DIR pour pouvoir échanger sur nos différents projets.
Oui,
pour pouvoir avoir des regards extérieurs sur ce que nous sommes en train de vivre en fait. Et ça a fonctionné pendant très longtemps. On en fait un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on est accaparé par la formation et ça nous manque. Et on dit qu'effectivement, l'idée, ça serait quand même d'en refaire plus régulièrement parce que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment fondamental de pouvoir avoir un regard extérieur, pouvoir déposer, parce qu'évidemment que les effets miroirs existent, que les personnes n'arrivent jamais chez nous par hasard, qu'on n'a pas tous les récits qui nous arrivent tout le temps, hein, c'est en fonction des personnes et en fonction des situations. Et donc, c'est important aussi de pouvoir échanger là-dessus, pouvoir déposer ce qui est difficile ou ce qui pourrait nous mettre en, qui pourrait nous mettre en délicatesse par rapport au travail qu'on est en train de mener, quoi.
Bien sûr. D'où l'importance de l'équipe également, d'être entourée.
Oui, oui, tout à fait. Et j'ai eu au début de mon activité un peu de supervision aussi, que je ne fais plus beaucoup, en tout cas pas en récit de vie. Mais moi, j'ai aussi freiné sur le récit de vie. J'en fais un petit peu moins aujourd'hui parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc, je dois aussi choisir dans mes différentes activités ce que je vais mettre en avant. Et ça reste une vraie question ouverte de se dire comment faire pour trouver le temps suffisant, parce que c'est beaucoup d'heures d'écriture, c'est beaucoup d'heures de transcription.
Bien sûr.
C'est un travail qui est très, très absorbant. Je suis aujourd'hui, je pense, plus dans cette étape de transmission en me disant j'ai envie de former des personnes qui peuvent faire ce travail, faire bénéficier d'autres personnes des expériences que j'ai pu vivre. Et de ce côté-là, nous sommes alignés avec mes collègues, hein, puisque nous travaillons ensemble sur cette formation. Et voilà, c'est des périodes. Mais ce n'est pas du tout exclu que le récit de vie prenne un jour une place plus importante dans ma vie. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est les ateliers d'écriture, c'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir écrire eux-mêmes autour de leur histoire. Donc, il y a la démarche de récit de vie, c'est une démarche. Puis, il y a parfois des gens qui ont envie de raconter eux-mêmes leur propre histoire. Donc, ça, c'est possible aussi. Et moi, je propose un programme pour que les gens puissent se raconter au fur et à mesure de leur parcours par eux-mêmes. Et puis, des ateliers d'écriture autobiographique qui sont aussi une manière de pouvoir travailler sur sa propre histoire sans forcément faire une démarche de récit de vie au sens strict du terme. Donc, il y a une multitude de possibilités pour pouvoir travailler sur son histoire sans être dans la thérapie ou le développement personnel, mais vraiment sur déposer son histoire et la renarrer, encore une fois.
Si on veut te contacter, je suppose que tu as un site internet pour que ce soit pour un accompagnement en récit de vie ou pour justement avoir des informations sur vos formations. C'est filigrane, hein, tu disais.
Alors, oui, mon site internet, c'est filigrane.ch. Il y a un site du collectif.
Oui, comme d'habitude, vous trouverez dans le descriptif de l'épisode tous les liens qui vous renvoient aux activités de Florence et de l'entreprise et du collectif. Tu as plusieurs projets, je crois, en route. Parce que oui, alors, une fois n'est pas coutume, Florence est aussi une collègue de podcast.
Oui. Alors là, je vais commencer de diffuser une série début avril qui s'appellera « Les filles d'Olympe ».
Ouais.
Olympe, c'est Olympe de Gouges. C'est un hommage à Olympe de Gouges, votre révolutionnaire, guillotiné, hein, quand même, mais qui est resté un petit peu moins dans l'histoire que Robespierre ou Danton, et qui pourtant a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Oui.
Elle a par exemple écrit la Déclaration des droits des femmes et de la femme et de la citoyenne. Et ça, bah évidemment, c'est moins resté dans l'histoire que d'autres textes officiels un peu plus masculins. Et ça, j'avais envie de mettre cette femme à l'honneur. Et le podcast s'appellera donc « Les filles d'Olympe », podcast intime et politique. Et il va proposer dans un premier temps une série de témoignages et de récits de femmes politiques qui racontent leur parcours, qui racontent ce qu'elles vivent et ce que ça signifie d'être engagée en politique, ce que ça signifie aussi en matière de... en termes de sexisme peut-être, mais aussi en termes d'engagement et en termes de valeur, en termes de sens. Et voilà. Et le problème des femmes politiques, c'est que souvent, quand elles sont engagées, c'est difficile d'avoir une parole libre sur l'activité qu'elles peuvent mener. Et jusque-là, j'ai plutôt opté pour des personnes qui ont dû partir ou qui ont choisi de faire autre chose, qui racontent avec un peu de recul leur parcours. Mais j'ai envie aussi d'aller solliciter des femmes qui sont actuellement engagées et qui ont des choses à raconter sur ça, dans l'idée aussi de donner des ressources, des envies et des aspirations à celles qui se lancent ou qui sont aujourd'hui très engagées en politique. Voilà, ça c'est le premier projet. Et puis le second projet, alors pour l'instant il est encore en gestation, c'est un projet qui sera mené avec une boîte de production qui touche à ma région natale, et ça, je ne sais pas si je peux déjà en parler parce que c'est vraiment en train de se construire. Et ce sera l'idée de tisser des liens entre deux régions qui ne se parlent pas beaucoup, avec une forme originale de rencontre, pour leur permettre de peut-être se rendre compte qu'au fond, ils ne sont pas si différents les uns des autres, mais qu'ils ont peut-être ce fameux plus petit dénominateur commun qui fait que peut-être que l'amour de la terre et l'amour de leurs racines pourraient peut-être dépasser les conflits politiques et les conflits sociétaux qui ont parsemé l'histoire de cette région depuis des dizaines d'années.
On sent tout ton amour de la vie, des histoires, des gens dans tous ces projets. Ça, c'est extraordinaire. Ben voilà notre conversation va prendre fin, mais j'ai envie de te poser une dernière petite question. J'aime bien poser une question sur par rapport à l'aventure du récit et du fait d'avoir placé ce mot aventure à un côté du récit. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça évoque pour toi, l'aventure au sens large ? Ça peut être une couleur, ça peut être un mot, ça peut être un souvenir, quelque chose qui est lié pour toi à ce mot aventure.
C'est drôle parce que l'aventure pour moi, c'est tu me colles un sac dans le dos et tu m'envoies dans le vaste monde et pour moi, c'est l'aventure et c'est ce que j'aime faire quand j'ai le temps de le faire. Mais là, tout de suite, ce qui m'est venu en lien aussi avec notre conversation, c'est vraiment l'idée du bateau. C'est l'idée de cette embarcation dans laquelle on embarque tous les deux ou avec les personnes avec qui on travaille et puis on vogue sur des flots. On ne sait pas exactement comment seront les eaux, si ça sera tempétueux ou si ça sera très, très calme. Mais c'est vraiment cette idée de voilà, se lancer, pas trop savoir où on va arriver, mais en tout cas choisir d'y aller ensemble et puis de faire face, d'accueillir un peu tout ce qui va se passer. J'utilise encore une fois le mot accueillir dans un autre sens. Et voilà, pour moi, peut-être que l'aventure, en tout cas l'aventure des récits, et ça fait sens, je trouve, par rapport à ce que j'ai entendu de ce que tu as déjà proposé jusqu'ici, eh ben c'est ça, l'aventure des récits. C'est se lancer, puis après, ben on verra.
Merci, merci pour cette très belle image. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler aujourd'hui sur l'aventure des récits. Je suis sûre que voilà, toutes celles qui nous écoutent vont... avoir découvert beaucoup d'éléments, beaucoup de richesses dans tout ce que tu peux nous partager aujourd'hui. Donc merci infiniment, Florence.
Merci beaucoup à toi, Sabine. C'était très agréable d'échanger avec toi sur ce magnifique sujet.
Merci, et puis à très très bientôt.
Avec plaisir. Merci.
Et à très bientôt à vous toutes et à vous tous sur l'aventure des récits, pour d'autres aventures donc et d'autres récits que l'on aborde ici, vous l'avez compris, sous tous ces angles, dans toutes les façons d'en écrire, d'en créer, d'en lire, avec des visions différentes, avec des missions différentes. À très vite, je vous retrouve pour le prochain épisode de la semaine prochaine.